Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Ah, c'est fini le temps où les iPads, il n'y en avait qu'un. Maintenant, chez Apple, il y a toute une gamme d'iPads, et c'est vrai que c'est pas facile de faire son choix. Et tout ça, ça va dépendre de votre utilisation. Que vous soyez à la maison pour regarder le programme télé, ou en mobilité, dans le train, ou même dans un amphithéâtre d'une fac pour travailler, ou encore si on veut aller encore plus loin avec les professionnels qui voudraient être productifs avec la meilleure performance, faire du montage vidéo, tout ça, tout ça. Cette vidéo, elle est là pour vous aider. Le but, c'est qu'à la fin, vous sachiez quel iPad choisir. Et non, on va pas parler des tablettes Android dans cette vidéo, c'est assez rare pour le noter. Chez Frandroid, parfois, on parle d'Apple. Alors avec tous ces iPads, j'ai fait quoi? Clac, j'ai fait le tri. Je les ai mis tous de l'ordre du moins cher au plus cher. Et donc on commence avec l'iPad classique, l'iPad 9 ou 10, la nouvelle génération avec le tout nouveau design. Il faut savoir que l'iPad 9, c'est vraiment l'iPad le moins cher à 439 €. C'est aussi parce qu'il utilise un design qui est 100% dépassé. C'est vraiment l'ancien châssis des iPads avec même le port Lightning. Donc autant vous dire que c'est un iPad que je ne vais pas vous conseiller de premier abord, même si je l'ai conseillé par exemple à ma grand-mère qui voulait juste regarder des replays sur MyTF1, M6 Replay, etc. Pour le coup, pour faire ça, ça suffit amplement. Après, voilà, si jamais vous cherchez un iPad pour en faire un peu plus que de regarder des replays ou des vidéos YouTube, eh bien sachez que juste au-dessus de l'iPad 9, il y a l'iPad 10. Et lui, c'est le tout dernier de chez Apple. Cet iPad 10, on va pas se mentir, il est assez cher. Il y a quand même une belle marche à monter quand on vient de l'iPad 9. Puisqu'il est vendu 589 € avec 64 Go de stockage, donc autant vous dire que c'est littéralement un rien, vous pourrez pas stocker grand chose, mais il a quand même quelques atouts, puisque déjà c'est le tout dernier design, qui embarque aussi une connectique USB-C, donc on peut y brancher un petit SSD externe si on veut stocker des choses dessus. Cet iPad, moi perso, je le conseille vraiment facilement à des étudiants, à des personnes qui sont vraiment en mobilité, qui font de la petite bureautique, que ce soit de la prise de notes, des envois de mails, du téléchargement de documents, enfin des trucs vraiment très simple, mais qui permet vraiment de voyager léger, et surtout avec une tablette qui est assez puissante, puisque finalement il embarque la même puce que celle qu'on a dans les meilleurs iPhones, et avec ça, clairement, on peut un peu tout faire, quoi. Il y aura vraiment pas de soucis. Alors, les promesses sont pas les mêmes que sur un iPad Pro, mais c'est vrai que là, franchement, avec un iPad comme ça, vous aurez vraiment très rarement des limitations. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait oublier sur cet iPad-là, c'est l'Apple Pencil. L'Apple Pencil, c'est leur stylet, qui coûte quand même 80 € si vous cherchez sur les meilleurs sites. Celui qui fonctionne sur l'iPad 10, c'est le stylet de première génération. Donc pour le recharger, il faut enlever le capuchon, le brancher en Lightning et puis attendre tout bêtement. Sauf que, pardon, je viens de dire brancher en Lightning, c'est plus possible du coup sur l'iPad 10. Maintenant c'est du USB-C, donc il faut acheter en plus un adaptateur Apple USB-C vers Lightning qui coûte 10 €. Donc on oublie l'Apple Pencil. Voilà, sur cet iPad-là, il n'est pas fait pour. C'est comme ça. Par contre, petit avantage que je trouve par rapport aux autres iPads, même les plus chers, la caméra, elle est quand même bien mieux placée. Elle se trouve sur une tranche sur le côté. Donc quand on utilise l'iPad en mode paysage, comme la plupart des gens font, au final, on peut faire des visios exactement comme avec un ordinateur. La caméra se retrouvera pas trop basse et sur le côté comme sur les iPad Pro. L'iPad mini, alors celui-ci, il est tout mignon, il est tout petit, c'est vrai que ça donne envie. Petit en taille, mais pas petit en prix. Il coûte quand même 659 € entrée de gamme. Et c'est vrai que cet iPad, on va pas se mentir, il est très cher pour ce qu'il a à offrir. Pour moi, c'est un iPad en usage professionnel. Quand je dis en usage professionnel, c'est-à-dire dans les magasins, pour des serveurs ou des serveuses, pour des hôtesses ou des stewards. Bref, tous ces métiers qui ont besoin d'un petit écran pour pouvoir consulter du contenu, conseiller des clients, ou même aller amener vers un achat. Mais sinon, à l'usage, cet iPad, c'est vrai qu'il propose un écran vraiment très petit. D'ailleurs, si vous avez un iPhone Pro Max, c'est même pas la peine d'y aller. L'iPhone Pro Max, il a un écran qui s'approche de celui de la taille d'un iPad mini. Il est compatible avec le tout dernier Apple Pencil 2e génération. Celui-ci est meilleur que le premier. Il est pas en Lightning pour brancher. Il est aimanté et il se recharge tout seul. Par contre, attention, aimanté, ça veut dire qu'on le perd quand on le met dans le sac. Et il a le tout dernier design des iPads. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça, il est vraiment sympa, tout petit, ça donne envie. Mais c'est vrai qu'à l'usage, nous, chez Frandroid, on a eu un peu de mal à y trouver beaucoup d'intérêt. On vous conseille plutôt un iPad avec un plus grand taille d'écran. C'est tout l'intérêt de ces produits-là, quoi. chez Apple, on a un naming différent qui est entre l'iPad et l'iPad Pro, c'est l'iPad Air. Alors le mot Air, c'est vrai que ça pourrait nous évoquer la légèreté, quelque chose de plus light, un peu moins cher, etc. Pas du tout chez Apple, quand on ajoute le mot Air à un produit, eh ben on rajoute 200 balles aussi. Cet iPad Air il coûte 789€ avec un stockage très limité de 64Go. Et ben c'est vrai que là, on est un peu le cul entre deux chaises. Cet iPad Air, à la fois, il vient vraiment voler beaucoup d'avantages des iPad Pro, et en même temps, ben, ça reste un iPad qui coûte très cher. Je m'explique. On a un iPad vraiment avec toutes les dernières geekeries que Apple pourrait donner à part sur les appareils photo. On reste sur un capteur unique, et ça, j'ai envie de dire, ça va manquer à qui ? Personne, hein, parce que qui fait des photos avec un iPad ? Dites-moi moi dans les commentaires, mais pas moi en tout cas. Donc cette concession-là, on l'a fait amplement. Par contre, on a vraiment une tablette avec une puce de PC. C'est la puce Apple M1. On la trouve dans des MacBook Air et dans des MacBook Pro. Et donc avoir mis cette puce dans un iPad Air, c'est vraiment dire, avec cet iPad, vous pourrez tout faire. Tout faire, c'est un grand mot, parce que ça reste un iPad, donc c'est un usage avec des applications, et il faut que les applications Pro soient sur l'App Store. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une puce aussi récente, polyvalente, performante, et en plus pas très énergivore en batterie, vous aurez un iPad qui sera équilibré et surtout qui tiendra dans le temps. Bref, cet iPad Air, il est alléchant. Et en plus, il est tout coloré. Regardez-moi toutes ces couleurs qu'Apple nous envoie dans la tête. Là, on est vraiment dans un monde où on a envie d'être pop, d'être frais. On n'est pas dans la gamme des iPad Pro et ça se voit. Le seul truc, c'est qu'à 789€, vous aurez 64Go de stockage. Et autant vous dire que c'est pas grand-chose. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer un peu quelle est la stratégie d'Apple pour essayer de vous faire payer toujours plus. Cet iPad Air, il est compatible avec tous les derniers accessoires de chez Apple, et d'ailleurs tous les accessoires de l'iPad Pro, donc c'est pour ça aussi que la frontière est mince entre les deux. Il est compatible avec le Magic Keyboard, cette arnaque de clavier magnifique hein, de chez Apple, qui se fixe avec les aimants, les connectiques, etc. Donc c'est vraiment une beauté de design, mais une arnaque de prix. Et c'est surtout compatible aussi avec l'Apple Pencil deuxième génération. C'est pas celui qui se branche avec le Lightning, mais c'est celui qui se recharge en l'aimantant comme ça sur le dessus de l'iPad. Beaucoup plus pratique. Si vous l'utilisez un iPad avec un stylet, c'est quand même ce pencil qu'il faut utiliser. Il est vachement réactif, il fonctionne super bien, il prend en compte l'inclinaison, la pression et plein d'autres choses qui font que vous avez vraiment l'impression d'écrire ou de dessiner sur une feuille de papier. Et maintenant, on peut passer aux derniers iPads, les plus performants, les plus forts, ceux qu'Apple met en avant dans toutes leurs pubs, les iPad Pro. Il y a à la fois un iPad grande taille, 12,9 pouces, avec un écran mini LED, qui coûte quand même 1469€, donc là, on est vraiment sur du ultra haut de gamme. Et de l'autre côté, on a un iPad Pro 11 pouces, qui là pour le coup est vraiment en face du format de l'iPad Air, et là on commence à compter les différences avec l'iPad Air, et autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Principale différence, déjà on a une puce M2, la toute nouvelle d'Apple, elle est un peu mieux, mais c'était déjà très bien avant. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter un iPad Pro avec une puce M1, bah, vous verrez pas de différence. Vraiment pas. L'autonomie était très bonne, la performance aussi, et sur l'iPad Pro M2, c'est tout pareil. Par contre, niveau design, évidemment, on le voit direct, c'est le module photo qui est très différent. Ici, avec l'iPad Pro, on a 3 capteurs photo et un capteur LiDAR. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous aurez un iPad le plus puissant avec un super écran. Je parle surtout pour le 12,9 pouces. L'iPad Pro 11 pouces, il a un écran LCD. Et avec des capacités de stockage quand même plus intéressantes si vous êtes prêt à aligner le chéquier. Surtout avec un stockage qui sera peut-être mieux exploité si vous travaillez avec des câbles, par exemple USB-C, puisque la connectique est en USB-C Thunderbolt 4. Donc là, vous avez un petit peu de débit à envoyer si vous voulez faire des transferts de fichiers, par exemple. Chose qui est beaucoup plus compliquée sur un iPad Air ou sur un iPad 10. Même si c'est de l'USB-C, tous les USB-C ne se valent pas, malheureusement. Et ces iPad Pro, bah, ils sont compatibles avec tous les accessoires qu'Apple a mis en place, donc Magic Keyboard, Apple Pencil, etc., etc.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. head to go.acast.com/closer to get started.
Mais c'est les mêmes accessoires que pour l'iPad Air. Donc c'est vrai que quand je vous disais qu'on essaye de compter les différences entre un iPad Pro et un iPad Air, eh ben c'est difficile de les départager. Vous allez me dire que l'iPad Pro avec sa puce M2, il devrait pouvoir nous permettre de faire des montages, de la retouche photo comme pas possible. Oui, dans les pubs d'Apple on peut. Mais en fait c'est vrai que quand on est un professionnel de l'image, comme je peux l'être au quotidien, eh ben les logiciels qu'on utilise ne sont pas forcément disponibles sur un iPad. Je vous donne l'exemple de Photoshop. Ben, c'est une version bridée sur l'iPad et on n'en retrouve vraiment pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir sur un ordinateur ou un MacBook. Même si Apple, ils sont en train de faire plein d'efforts en ce moment pour en mettre la gomme et faire en sorte qu'un maximum de logiciels pro soient disponibles sur l'iPad, ben, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut faire bouger tous les créateurs des logiciels. Et même Apple, ils ont beau essayer de faire en sorte que ça fonctionne, j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent même pas eux-mêmes. Par exemple, Final Cut, qui est leur logiciel propriétaire sur de l'édition vidéo, bah il est pas complet sur l'iPad Pro. 1 469 € quand même les amis. Et je vous passe l'application fichier qu'on peut accepter et tolérer quand on est sur un iPad 10 ou un iPad Air parce que bah voilà on est étudiant, on veut s'amuser. Mais quand on est un professionnel, l'application fichier c'est le gestionnaire des fichiers sur l'iPad et qu'on veut maîtriser un petit peu nos fichiers de travail, les rushs, les photos, etc. C'est un enfer. C'est le pire gestionnaire de fichiers que je puisse connaître sur toute cette terre entière. Ça rame, ça bug, ça rage kit, c'est vraiment pas optimisé. Et c'est là que j'espère que dans les futures générations d'iPad qui vont sortir, Apple se mette à modifier son OS et fasse de iPadOS quelque chose qui se rapproche de plus en plus de macOS. Bon alors voilà, vous voyez, avant c'est vrai qu'Apple c'était simple, un produit, une gamme. Maintenant c'est une gamme, 5 produits chez Apple. Et là vous posez la question, lequel acheter ? Alors prenons le problème à l'envers. Déjà, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un iPad ? Parce que le nombre de personnes qui ont acheté un iPad et qui prend la poussière chez eux, c'est quand même assez affolant. C'est un produit, c'est vrai, qui donne vraiment, vraiment beaucoup envie. Un grand écran pour consulter du contenu, regarder ses mails de manière tranquille, c'est vraiment sexy. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est un produit qu'on n'utilise pas autant qu'un smartphone, qu'on va pas spécialement mettre à recharger tous les soirs, et donc il peut vite se vider de batterie, et au final qu'on l'oublie et qu'on ne l'utilise plus. Bref, cet iPad a été la désillusion de beaucoup de personnes qui en ont acheté. Donc personnellement, je recommande un iPad aux personnes qui n'ont pas spécialement d'ordinateur chez eux et veulent juste faire de la consultation de contenu, de mail et du traitement de fichiers. Sont étudiantes, c'est trop pratique dans un amphithéâtre ou même en classe, ça fait pas de bruit, c'est pas très gros et on peut vraiment, vraiment bien bosser avec. Moi j'ai fait mes 3 années d'études sur un iPad, c'était au top. Et aussi aux gens qui ont déjà un ordinateur mais qui voudraient avoir une tablette à la maison ou en déplacement, qu'on peut emmener un peu partout, sur le canapé, etc., etc. C'est vrai que les ordinateurs, on peut pas tous les transporter. Par contre, je déconseille les iPads aux gens qui ont déjà un MacBook Air. On fait la même chose en mieux sur un MacBook. Et on le déconseille aussi, un petit peu, en vrai, dans une moindre mesure, aux personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple, parce que c'est vrai qu'un iPad, ça s'utilise pleinement quand on est dans l'écosystème Apple. AirDrop, iMessage, Sidecar, FaceTime, tout cet écosystème d'applications natifs chez iOS, iPadOS et macOS, ça fonctionne bien ensemble, et c'est vrai que si vous achetez un iPad seul, vous profiterez pas à 100%, de la force d'Apple, c'est l'écosystème, quoi. Et donc, à qui ça s'adresse pas pour finir ? Aux pros, finalement, même s'il y a une gamme d'iPad Pro, j'aurais du mal à conseiller aux professionnels. Quand je dis professionnels, c'est les professionnels que veulent toucher Apple. Les monteurs, les personnes qui font de la 3D, des graphismes complexes, toutes ces personnes qui sont vraiment professionnelles et qui utilisent des logiciels complexe, c'est vrai que vous aurez pas d'équivalent sur votre iPad Pro, même si vous prenez l'iPad Pro. En plus de ça, ça reste un iPad, donc il n'y a qu'une seule connectique. C'est pas comme un ordinateur où on peut brancher plusieurs choses en même temps. Il faut pas prendre un iPad pour remplacer un ordinateur de travail. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, je parle vraiment des pros de l'image, ceux qu'Apple veut toucher à travers leur pub. Parce qu'en réalité, sinon, l'iPad, en général, est un très bon outil pour n'importe qui veut traiter des mails, faire un petit peu de traitement de texte et du tableur. Alors lequel choisir là-dedans? Eh ben celui que je vous conseille le plus, vous l'aurez compris, c'est l'iPad 10. C'est celui qui arbore le tout dernier design avec une connectique USB-C. Il a une puce qui est largement puissante avec une bonne autonomie. Et il va vraiment couvrir 98% de tous les usages que vous aurez besoin d'avoir sur un iPad. Le seul truc qui peut manquer, c'est l'Apple Pencil nouvelle génération. Et potentiellement les appareils photo si vous vous en servez sur un iPad. Le seul truc auquel il faut faire attention quand vous achetez un iPad, c'est le prix du stockage. Je prends l'exemple de l'iPad 10, mais ça se réplique pour tous les autres iPads. 589€ avec 64Go de stockage, 789€ avec 256Go de stockage. Chez Apple, c'est toujours comme ça, le stockage, vous l'achetez au prix fort. Alors comme ça, bah oui, on se dit, attends, mais pour 200€, je vais pas acheter un iPad 10 avec 256Go. Et bah peut-être que c'est pas forcément une mauvaise idée finalement. Parce qu'avec 64Go, je vous le dis d'avance, dans un an, votre iPad, il est plein à craquer. Il y aura des applications, pour peu que vous ayez un iPhone, il y aura des photos. Et puis toutes les données que vous allez télécharger sur les applications de streaming, par exemple. Et c'est vrai qu'Apple, là, ils arrivent comme une fleur et ils vous disent « Ah, mais tu connais iCloud Plus ? » 3€ par mois et tu as 200Go de stockage supplémentaire sur ton iPad, donc tu atteins les 264Go de stockage au total. C'est pas beaucoup plus que 256Go qu'on aurait eu à l'origine. Et même si Apple vous le fait payer 200€ sur le produit neuf, et ben avec iCloud Plus, si vous payez ces 200Go supplémentaires en cloud pendant 5 ans et demi, vous atteindrez les 200€ supplémentaires. Sachant que les iPads sont des produits qui sont faits pour durer dans le temps, surtout chez Apple, on a des processeurs qui sont haut de gamme avec des matériaux vraiment qualitatifs. Donc en théorie, votre iPad, vous n'allez pas le changer au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans même. Moi par exemple, j'ai le mien depuis plus de 6 ans et il fonctionne encore très bien, donc vraiment c'est des produits qui vont durer dans le temps. Et c'est vrai qu'on peut se dire bah, peut-être que ça vaut le coup de mettre un peu plus de stockage sur le moment, même si c'est un peu jouer le jeu d'Apple, de leur donner de l'argent et de leur donner raison de faire payer le stockage aussi cher. Et je vous parlais tout à l'heure de brancher un SSD avec la connectique USB externe, mais comme je vous l'ai dit, l'application fichier, elle est vraiment pas optimale et c'est vraiment compliqué, je trouve, d'utiliser un SSD externe pour stocker des données qu'on aurait besoin au quotidien. Mais Apple, ils sont malins parce que si vous êtes convaincu d'acheter un iPad avec un peu plus de stockage à 789€ par exemple pour l'iPad 10, eh ben ils vont vous montrer qu'en face, il y a l'iPad Air qui coûte aussi 789€ prix d'entrée et vous avez pas mal de petits trucs de geek en plus. Et là, vous allez vous dire, ah, mais c'est bête, pourquoi si je suis prêt à mettre 789€, est-ce qu'au final, je serais pas prêt pour mettre 789€ dans l'iPad Air? Mais c'est 64Go, donc on passe à 989€, puis si vous regardez, hop, 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 à 989€, juste au-dessus, il y a l'iPad Pro M2 11 pouces, qui coûte tout juste 1000€, et là, c'est vrai qu'on se dit, bah mince, oh, si je suis prêt à mettre 989€, je suis peut-être prêt à monter sur l'iPad Pro, et puis là, vous êtes passé de l'iPad 10 à l'iPad Pro, voilà. En fait, chez Apple, les marches, elles sont très dures à monter quand il s'agit de monter le stockage sur un produit. Par contre, entre les gammes, ils font quelque chose de très serré pour, je pense, provoquer la bascule et vous donner envie de monter en gamme à chaque fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous éclaircir les esprits. Même si cet iPad 10, il coûte cher quand même à la base, c'est vrai que pour moi, c'est l'iPad un peu ultime, c'est celui qui remplit tous les usages. Et vu qu'il est très récent, bah, il va continuer d'être mis à jour pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai du mal à justifier l'achat d'un iPad Pro 11 pouces à plus de 1000€ quand on a tant de performances sur des iPads à 500€ quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, chez vous, vous avez un iPad, ça m'intéresse. Dans tous les cas, on continue de tester les tablettes Android, hein. N'hésitez pas à aller voir sur le site. D'ailleurs, récemment, on a testé la Pixel Tab, qui est une bonne tablette, hein, mais un peu trop chère aussi. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, on fait des lives tous les jours pour répondre à vos questions, on vous répondra avec plaisir. Allez, vive la technologie, vive les tablettes et vive Android, parce qu'ils m'ont manqué pendant cette vidéo. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.